Chaque samedi, je vous convie à un voyage biographique. Partir grâce au documentaire sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Son talent n'a pas été reconnu d'emblée. Il dut patienter pour publier. Il disait « Des années de merde, de médiocrité n'ont jamais empêché un écrivain d'écrire ». De lui, on retient l'usage du monde en 1963, son premier livre et la phrase qui le caractérise. On croit faire un voyage, mais c'est le voyage qui vous fait. Aujourd'hui, Brice Andlauer et Christine Robert vous proposent Nicolas Bouvier, 1929-1998, c'est toute une vie d'étonnant voyageur.
C'était dans la vieille ville de Genève. C'était un petit studio, on était entre amis. Et puis tout à coup, je vois la porte de ce studio s'ouvrir tout doucement. Et puis, je vois un jeune homme entrer, mais comme un chat, tout doucement. Et puis je regarde, je me dis, ça doit être lui, il va se passer quelque chose.
Nicolas Bouvier, des routes, des mots et des poussières.
Alors, on a tout un tas de photos devant nous. En fait, ce sont des photos que Nicolas m'avait données. La plupart sont prises entre l'Afghanistan et l'Iran. On y voit des chaïkhanés, des bistrots de campagne. On y voit des samovars. On y voit des ânes qui partent comme ça au loin, avec la cime des montagnes. On y voit des enfants.
Ben, ils voyageaient.
Là, des chevaux, lors d'un match de Bukachi.
Il allait d'une chose à l'autre.
Ça, c'est en Afghanistan.
Rien n'était tellement prévu à l'avance. Ben, la preuve, ils sont arrivés à Tabriz, la neige est tombée, ils y sont restés 6 mois. C'était pas prendre une carte et puis dire ce jour, aujourd'hui, on va de là à là. Pas du tout. C'était comme ils le sentaient.
On y voit des paysans, on y voit des musiciens, on y voit parfois des guerriers.
C'était de l'instinct.
On y voit Tabriz.
C'était une envie de...
Probablement un jour de marché.
D'aller...
Des enfants peut-être qui jouent...
Le plus tranquillement du monde...
Dans une rivière à sec.
Vers l'Asie, vers l'Est. C'était un besoin d'évasion, ça c'est évident. Par une sorte de dément... Dément de la découverte.
Artiste multifacette, souvent rangé dans la catégorie des écrivains voyageurs, Nicolas Bouvier était aussi photographe, iconographe, guide de voyage, conférencier et poète. Il est connu du grand public pour son livre « L'usage du monde », récit d'une longue dérive entre la Suisse et l'Afghanistan avec le peintre Thierry Vernet. À 24 et 26 ans, les deux jeunes hommes bien nés se lancent sur cette route magnétique vers l'Est pour épouser la vibration du monde et aller au bout d'eux-mêmes. Seul, Nicolas Bouvier connaîtra ensuite la dépression au Sri Lanka, puis l'apaisement au Japon, avant de retourner en Suisse, où il sera reconnu tardivement en tant qu'écrivain, essentiellement pour 4 ouvrages liés à des périodes marquantes de sa vie. Un livre de voyage, une sombre fable fantastique, un travail de recherche sur le Japon et un recueil de poèmes. Toute sa vie a été rythmée par un mouvement de balancier entre Est et Ouest, un conte entre ombre et lumière, écrit par un homme au sens en éveil, jeté sur les routes pour accorder au plus juste le dehors et le dedans.
Je déteste le chocolat, mais je le faisais manger à mes grandes et belles cousines et je gardais les vignettes.
Nicolas Bouvier, 1992.
C'était des vignettes de type missionnaire qui faisaient rêver avec des jonques aux voiles rapiécées comme des pantalons de tzigane, des tigres dans la jungle, le palais du roi de Siam, le Nil bleu. Bon. On voit ça, on rêve et un jour on y va. Et puis la lecture des atlas aussi. Moi, je lisais à 8 ou 9 ans les atlas comme des polars, vraiment. Pendant les longs jeudis de pluie, parce qu'on a une météo dégueulasse à Genève, et du temps pour la lecture quand il n'est pas pris par l'école. Moi, c'est la lecture qui m'a mis sur les routes.
dans sa jeunesse, à travers ses lectures.
François Lot.
Il a une fascination pour le Grand Nord, pour les auteurs.
Biographe de Nicolas Bouvier.
Donc de grands espaces. Il s'est passionné pour la géographie, où il racontait lui-même qu'il dessinait dans les mottes de beurre, etc., le tracé des grands fleuves d'Orient. Et puis, au fur et à mesure de la jeunesse, une jeunesse fermée dans la Suisse neutre, mais close, dès l'après-guerre, il prend la route, le vélo, pour aller à Annemasse, en Savoie, puis plus loin, l'Italie, bientôt le Midi, des marches avec son ami Vernet. Et là, le goût de partir le prend de manière très très forte. Et puis, il a le sentiment, je pense, assez vite, dans son adolescence, d'étouffer à Genève. Et ce désir de partir, il va le lier, évidemment, aussi très vite à l'écriture.
Le milieu dont il venait était quand même un milieu extrêmement pesant.
Nadine Laporte, professeure de littérature.
C'était la grande bourgeoisie genevoise, protestante, en même temps un milieu dans lequel il avait grandi. Il parle de façon très belle de son jardin à Genève, du jardin de ses parents. Il a écrit de très très beaux livres sur la Suisse. Donc il n'était pas non plus en révolte. Mais c'était un cadre qui l'enfermait. Et quand on lit la correspondance qu'il a eue, en particulier avec Thierry Vernet, très très jeune, à 14-15 ans, on sent que tous les deux, alors Thierry Vernet presque, parce qu'il était plus âgé, donc de façon plus intense, c'est une sorte de mystique du départ. C'est-à-dire que, de la même manière que les mystiques doivent quitter le monde un peu quotidien, quoi, un peu banal, pour pouvoir accéder à une autre dimension. Et ça permettait aussi pour lui, et ça c'est extrêmement important pour lui et pour Thierry Vernet, d'être aux aguets de toutes les petites choses. On arrive dans un monde où tout est tellement nouveau qu'on fait attention à tout. Même à la poussière, même aux rats, même aux mouches. Donc je pense que c'était ce besoin de s'arracher pour arriver à une autre dimension du monde.
En 1953, c'est le grand départ pour Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Ils prennent la route avec une Fiat Topolino, d'abord jusqu'en Afghanistan, et puis ensuite en descendant l'Inde jusqu'au Sri Lanka. Quel est le but de cette aventure? Comment est-ce qu'ils l'envisagent, ces deux jeunes hommes, quand ils prennent la route?
C'est devenir soi-même, c'est partir pour durer, vivre en fonction des lieux, s'imprégner des choses. Et puis, il y a une recherche du bonheur, tout simplement. Un art de la vie, disait Nicolas assez jeune dans les premières lettres à Thierry. Trouver un art de la vie, voyager, être heureux, rencontrer, et puis après, raconter.
Tabriz. Tous les toits dégorgés. Dans le caniveau, sous une croûte de neige noire, on percevait un ruissellement cordial et précipité. Le soleil nous chauffait une joue. Les peupliers s'étiraient en craquant contre un ciel redevenu léger. Profondes et lentes poussées dans les têtes, les os et les cœurs. Les projets prenaient forme. C'était Bahar, le printemps.
Alors, je dirais au-delà des lieux, ce qui compte, c'est le regard. Et l'usage du monde a été ma première grande fulgurance de lecteur.
Olivier Bauer, journaliste.
Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est donc ça. Voilà les émotions que ça peut apporter, de lire. Ce qui séduit dans l'écriture de Nicolas, c'est la précision. C'est le détail, c'est l'amour du détail. Et finalement, peu importe où on est, c'est la manière dont il le décrit. C'est ce qu'il va voir et comment il va narrer cet épisode-là. Et c'est ça, je pense, qui nous touche.
C'est une envie de
Eliane Bouvier, peintre et épouse de Nicolas Bouvier.
De raconter ce qu'il a vécu pour le faire vivre. Et c'est pour ça qu'il était tellement exigeant dans son écriture, pour que les gens puissent le vivre à sa place. C'est pour ça que c'est assez visuel. Les gens ont l'impression d'y avoir été.
Grand ramage des corneilles au fait des branches neuves. Dans une brume de boue dorée, dans une lumière merveilleuse, les énormes camions venus de l'ouest s'arrêtaient en tanguant devant le bazar. Nous buvions des thés sur la rue en écoutant une clarinette qui montait des souks. Nous la connaissions bien. C'était le menuisier arménien, un soigneux, un doux, qui transportait son instrument dans une jolie boîte en poirier.
Il ne va pas décrire des lieux touristiques. Souvent, il ne va même pas y aller, d'ailleurs. Mais il va raconter un moment, une émotion.
Navets bouillis dans leur sang et gâteaux parfumés au citron. Casquettes et gourdins. Cheval de fiacre, un œillet de papier sur l'oreille. Fenêtres noires. Carreaux gelés où s'inscrivaient les astres. Chemin boueux qui menait vers le ciel. Tabriz.
Le voyage de Bouvier se situe une sorte de transition avec ce qui lui succédera, c'est-à-dire le voyage hippie, ce qui l'a précédé, c'est-à-dire l'aventure pure. Il est dans un domaine un petit peu intermédiaire où quand même il y a des moyens de communication qui sont forts, il y a des routes, il y a des pistes. On est quand même dans l'après-guerre, il y a aussi des avions qui peuvent ramener du courrier. Alors évidemment, il y a une petite voiture qu'ils ont démontée complètement, donc les pannes, il y a moins de garages, etc. Mais enfin, il le dit, plus la route est difficile, plus on va trouver des routiers, des brouillards. C'est un abri dans le désert de l'Out, quand il crève de chaleur, on s'y met dessous. C'est aussi, je dirais, une tortue poétique qui avance très lentement, puisque très vite, ils vont l'arborer d'extraits de poèmes, de Hafiz au début, puis de Rilke. Donc voilà, cette espèce d'engin qui paraît minuscule quand on le voit sur les photographies, donc qu'il faut parfois pousser, tirer, va être un partenaire, un compagnon du voyage jusqu'à Ceylan.
Ils partent avec un dispositif qui est assez particulier. Quand on fait la liste des objets avec lesquels ils partent, on dirait presque une petite liste à la Prévert.
Ah bah c'est une sorte de plum pudding tout à fait serré, disait Nicolas, qui accumule en fait toutes sortes à la fois de vêtements, des médicaments, toutes sortes de choses, des bonnets à poils, enfin toutes sortes de vêtements pour à la fois l'effroi prévisible de l'Asie centrale, l'accordéon, la guitare, la machine à écrire, et puis toutes sortes de choses. Je crois qu'il a déjà un appareil réflexe vertical. Et puis, peut-être la nouveauté, c'est le nagra.
Je suis parti avec le propre nagra.
Nicolas Bouvier.
De Koudelski. Koudelski fabriquait artisanalement des nagras chez lui, et ça donnait de très très bons résultats parce que ces bandes elles ont 50 ans pratiquement. J'ai découvert cette formidable musique balkanique, mais je dirais surtout serbe. Je pense que de tous les Balkans, c'est vraiment une musique qui m'a complètement tétanisé. On s'est juré de suivre cette piste musicale. En tout cas, jusqu'en Inde, ça a été un des motifs puissants qui m'a fait toujours revenir dans ces territoires à Cigogne, à Tsigan, où la musique fait vraiment partie du quotidien, ce qui n'est malheureusement pas du tout le rôle qu'elle a chez nous. Et je me suis rendu compte que la musique folklorique était une véritable caverne d'Ali Baba dans laquelle je pourrais passer la moitié de mon existence, parce que pour moi, une vie sans musique, ça n'aurait pas grand sens.
À midi, un oignon, un poivron, pain bis et fromage de chèvre, un verre de vin blanc et une tasse de café turc amer et onctueux. Le soir, les brochettes de mouton et le petit luxe du coup de pruneau sous les sorbiers élèvent un peu le prix du repas. En ajoutant les excellentes cigarettes locales et la poste, c'est la vie pour deux, à 700 dinars par jour. C'est très soudain. Il suffit d'un ciel bas et d'un peu de pluie pour que les rues se transforment en bourbier. Le crépuscule en suit, et que Prilep, tout à l'heure si belle, se défasse comme du mauvais papier. Tout ce qu'elle peut avoir d'informe, de nauséabond, de perfide, apparaît avec une acuité de cauchemar. Le flanc blessé des ânes, les yeux fiévreux et les vestons rapiécés, les mâchoires carriées, et ses voix aigres et prudentes modelées par 5 siècles d'occupation et de complot. Jusqu'aux tripes mauves de la boucherie, qui ont l'air d'appeler au secours, comme si la viande pouvait mourir de foie.
Moi, une des images qui m'a fait fantasmer aussi, c'est au tout début, quand il reçoit cette lettre de Thierry Vernet, et assis à une terrasse, en train de boire un verre de vin blanc, quelque part à Zagreb, ou je sais plus où, et j'en ai rêvé de ça. Le goût de ce vin-là, je l'ai encore sur la langue.
Frédéric Leclou, photographe.
Avec un ami, on est parti de Bruxelles vers l'Iran. En 98, on a pris un vol vers Istanbul, et puis après, depuis Istanbul, petit à petit, on a cheminé l'Iran et le Pakistan. Et là, j'avais l'usage en poche. Et c'est la première fois que j'ai voyagé ou avancé sur la route de l'usage du monde avec le livre sous les yeux. Moi, en tout cas, il m'a semblé que c'était la première fois que je lisais une telle adéquation entre une manière d'être en route qui était dépouillé de tout le surplomb que pouvait avoir le regard anthropologique ou ethnologique des savants, dépouillé aussi de ce petit côté pharo de l'aventurier, et une manière de dire cette façon d'être en route et de la raconter d'une luminosité et d'une poésie qui était encore inouïe à mon avis à l'époque. Voilà. Bouvier, en tout cas, ce qu'il donne à lire dans l'usage du monde, c'est plus un jeu qui regarde l'autre avec tendresse, avec empathie, avec attention, avec une grande humilité aussi, à mon avis.
C'est un vécu d'une aventure de voyage, mais il faudrait trouver plusieurs termes à additionner pour former un tout. Et l'usage du monde, ça vous entre par tous les sens, par tous les pores. C'est pas juste une impression. Ça vous habite, mais vraiment profondément.
L'air était d'une transparence extraordinaire. La voix portée. J'entendais des cris d'enfants, très haut, sur la vieille route des nomades, et de légers éboulis sous le sabot des chèvres invisibles, qui résonnaient dans toute la passe en écho cristallin. J'ai passé une bonne heure immobile, saoulée par ce paysage apollinien. Mes 10 ans de voyage n'auraient pas pu payer cela. Ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs, puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Repris mon passeport paraffé et quitté l'Afghanistan. Il m'en coûtait. Sur les deux versants du col, la route est bonne. Les jours de vent d'est, bien avant le sommet, le voyageur reçoit par bouffée l'odeur mûre et brûlée du continent indien. L'usage du monde.
Il me lisait tout ce qu'il écrivait au fur et à mesure, et son bureau, c'était ce qu'on appelait la chambre rouge. Mais pas rouge drapeau suisse, en rouge italien. Bon. Et c'est toujours là qu'il a écrit. C'était pas une très grande chambre. Il y avait un divan et il y avait des toiles de Thierry Vernet. Et puis, bien sûr, son tourne-disque à l'époque. Il avait un kakemono qui pendait. Et puis, il avait de grandes feuilles qui étaient des feuilles en papier, des nappes de bistrot. À l'époque, elles étaient en papier. Et sur lesquelles il prenait énormément de notes. C'était son antre. C'est là qu'il écrivait. Il écrivait à la main. Il tapait un premier jet à la machine. Et moi, je le retapais au propre, comme on dit. Je crois que j'ai tapé l'usage du monde, en tout cas, 2 ou 3 fois. Et puis, à la 4e fois, je lui ai dit, cette fois, moi, je ne veux plus. Il y a un moment où il faut cesser de pinailler, de corriger, de parce qu'il avait un tel souci du mariage des mots qu'il n'était jamais vraiment satisfait. Et moi qui suis plutôt impatiente de nature, c'était déjà une épreuve pour moi. Ce qui fait qu'à la fin, je lui ai dit, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Parce que sans ça, tu mettras 20 ans et il ne sera jamais écrit.
Nicolas Bouvier a obtenu il y a quelque temps le prix des écrivains genevois pour un livre intitulé « L'usage du monde » et qui est le récit d'un long, d'un très long voyage. Un voyage qui a duré combien de temps, Nicolas Bouvier ?
4 ans, tout est pour toutes.
C'est un long voyage. Et un périlleux voyage.
1963.
Périlleux, non, c'est...
Radio-télévision suisse.
Nous sommes partis avec de quoi vivre 3 mois et nous nous sommes mis à travailler dès la Yougoslavie. Puis nous avons poursuivi en prenant des emplois saisonniers, enfin les métiers qu'on trouvait.
Nous sommes partis, vous étiez deux donc.
Je suis parti avec un ami peintre, Thierry Vernet.
Je crois qu'il faut préciser que c'est lui qui a illustré le livre. C'est une technique assez nouvelle de voir un dessinateur se rendre lui-même sur les lieux du livre qu'il a illustré.
Ben, c'est assez souhaitable aussi. En somme, c'est plus qu'une illustration, c'est une sorte de dialogue entre l'image et le texte. Nous avons voyagé ensemble. Moi, j'ai éprouvé ça en tant qu'écrivain et j'en ai rendu compte en tant qu'écrivain. Et lui a dessiné son voyage.
Et vous trouvez qu'à travers ces dessins d'un type assez particulier, il faut le dire, on retrouve un peu l'âme des différents pays que vous avez parcourus ?
Absolument. Pour moi, c'est d'une très grande fidélité. Je comprends que ça puisse dérouter les gens qui n'ont pas l'expérience de ces pays-là, mais il y a un mélange de cocasse et de tragique dans les dessins de Vernet. Il y a beaucoup de force, il y a une certaine rudesse, mais il faut dire qu'il s'agit d'un monde rude, et nous l'avons vu rudement.
Alors, ils sont à la Salonique en 1953, ça. Ouais, avec Thierry Vernet. Là, on a deux gamins, là. Hein. On a deux gamins sur la photo. Nicolas ressemble à un ado avec une clope à la main. Ils sont sur la plage avec une nappe, une table. Il y a deux chaises, une table avec une petite nappe, et puis des pêcheurs au loin. Il y a marqué voyage. Tout jeune, il avait une écriture qui était terrible, indéchiffrable. Thierry a une véritable influence sur l'écriture, non seulement sur l'écriture de Nicolas, mais sur le regard de Nicolas. C'est Thierry qui a appris finalement Nicolas à regarder les paysages. C'est Thierry qui a initié Nicolas aux couleurs. C'était Thierry le peintre. Et Nicolas a profité justement de ces connaissances-là, de cette sensibilité-là, pour à son tour devenir l'artiste qu'il est devenu. Dans le choix même des mots, quand il parle de ciel couleur aubergine, faut y voir la patte de Thierry. Ce qu'il faut retenir en fait de leur amitié, c'est que lorsque Nicolas a eu la possibilité de publier L'usage du monde la première fois en 1963, un éditeur français était prêt à le publier, mais en lui demandant de ne pas publier les dessins. Et Nicolas refusait.
Heureusement, un cher ami de Nicolas, qui avait une maison d'édition, mais très académique, a été d'accord que Nicolas et Thierry publient ce livre à compte d'auteur. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand je racontais ça, je ne sais pas, des 20 ans après, à des amis français, au festival Étonnant Voyageur, où je rencontrais beaucoup de monde, et que je disais, mais L'usage du monde, vous savez, il a été publié à compte d'auteur, ils me regardaient avec des yeux tout ronds en se disant, mais enfin, comment est-ce possible? Ben non, ça a été comme ça.
C'est un écrivain qui voyage ou un voyageur qui écrit?
C'est très certainement un écrivain qui voyage.
Thierry Vernet, France Culture, 1987.
Nicolas est profondément un artiste, un poète et un écrivain. Et tout ce qu'il vit, il le vit en fonction d'un récit qui a sa vie. J'ai l'impression que, comme tout artiste sérieux, il a été en crise toute sa vie. Des crises à la fois stérilisantes parfois et parfois extrêmement créatrices. Pour lui, le voyage est une dimension spirituelle qu'il peut développer même s'il ne bouge pas. Il n'a pas besoin de voyager beaucoup pour voyager énormément, parce qu'il a une attention aux choses et une attention aux êtres qui fait que peu sert à beaucoup. C'est un homme blessé, comme nous tous, et il s'exprime par rapport à cette blessure. Donc elle est importante et respectable et peut nous apporter à tous quelque chose.
L'usage du monde, c'est un voyage à deux. Il y a une sorte d'enthousiasme, de légèreté. Moi, j'appelle ça un livre champagne. Il y en a quelques-uns comme ça dans la littérature. Donc ce sont deux personnages très très jeunes qui partent et puis qui vivent leur jeunesse, qui vivent leur folie, leurs éclats de rire. Le poisson scorpion, il est seul. Il est arrivé au bout d'une terre qui est l'Inde. Il y a eu la descente de l'Inde absolument extraordinaire pour lui. Et puis là, il se retrouve au bout. Son ami Thierry Vernet est parti avec sa fiancée. Enfin, ils se sont mariés au Sri Lanka. Et puis Nicolas Bouvier a été témoin. Ils sont rentrés en Suisse. Donc il est seul. Et par rapport au bonheur, au livre champagne de l'usage du monde, je dirais que le poisson scorpion, c'est la cuite du lendemain matin.
Le voyage change complètement parce qu'il n'a plus en face de lui, comme un miroir de lui-même, cette présence de l'ami, du jumeau, du compagnon psychologique. Hein. Il éprouve d'énormes difficultés à survivre. Il se sent affaibli, donc prédisposé à des fantasmes, presque des délires. Hein. Et en même temps, il se dit, c'est le moment d'approfondir mon écriture. Des bribes de fiction naissent aussi sur son enlisement à Galles, dans cette pension. Donc il écrit énormément, et en même temps, il souffre en écrivant et il est malade. Donc en fait, 20 ans après, il voudra se libérer complètement de ce qu'il avait enduré à Galles, en le retrouvant, en le faisant vivre et en s'en libérant par une sorte d'histoire un peu fantastique qui sera le poisson scorpion.
Blatt, Bousier, Scorpion, Scolopendre. J'ai l'habitude de ces changements d'échelle et de ces minuscules interlocuteurs. Je ne cache pas non plus mes sympathies. Cette femelle colossale me plaît, sans illusion. Pour les élans du cœur et les marivaudages, l'épicière a un poisson scorpion qui tournoie dans un bocal à concombre, joliment aménagé avec du corail, du sable fin, et posé au coin du comptoir. Elle le nourrit de miettes, de cassonades, de mouches qu'elle écrase, d'un peu de pain. C'est un jeune mâle en belle santé qui virevolte à la moindre agacerie en déployant un parasol de piquants venimeux tacheté de sépia. Lorsqu'elle se croit seule, elle colle son visage contre le verre et lui fait des grimaces, auxquelles il répond par d'élégants frémissements. J'ai plusieurs fois surpris ce manège, en retenant mon souffle avant de me retirer sur la pointe des pieds, jaloux comme un barbon. La place est donc prise, mais il n'est pas interdit de rêver.
Si on n'a pas lu Le Poisson Scorpion, on passe à côté de l'essentiel de ce qu'est Nicolas Bouvier. L'usage du monde, c'est un livre sur le bonheur d'être en route, et la mort n'est jamais présente qu'en filigrane dans ce livre. On voit un corbillard qui passe de temps en temps, il y a des petites choses comme ça. Et si on n'a pas lu Le Poisson Scorpion, on a l'impression que le monde n'est fait que de la beauté d'être en route, selon Bouvier, alors qu'il est aussi fait de une espèce de figement maléfique dans un endroit pour lui qui était profondément nocif à ce moment-là, une difficulté inouïe à survivre, à s'en extraire, à retrouver trois neurones pour rassembler des forces pour aller vers le Japon. Un livre d'ailleurs qui est discrètement dédié à Johnny Walker, qu'il a écrit, dit-il, sur des flots de whisky pour se remettre dans l'état de malaise qu'il était à l'époque. Donc Nicolas Bouvier, c'est aussi ça. Et c'est aussi à cet endroit-là qui m'aide, moi, aujourd'hui, c'est-à-dire, si on va bien dans son œuvre, on a des pistes pour comprendre notre propre tiraillement entre nos contraires en permanence.
Pendant longtemps, je n'ai pas osé retourner dans cette espèce de...
Le vent des mots.
D'incubateur de merde, où j'avais laissé une partie de ma raison.
Nicolas Bouvier, filmé par Olivier Bauer.
Et j'ai écrit ce texte pour me débarrasser de ces langues, de tout ce que j'y avais vécu de déplaisant. Et d'ailleurs, j'ai mis en exergue cette citation de Céline que je trouve superbe, qui dit « Le pire en tout, c'est d'oublier ce qui vous a fait crever. » Et je ne voulais pas oublier ce qui m'avait presque fait crever.
Il était rentré, c'était au mois d'avril que je l'ai rencontré, et il était rentré 3 mois auparavant. Il était complètement déphasé, et il n'avait plus du tout la notion de l'heure. Il se levait à 4h du matin, il allait à la gare pour voir des trains partir. Il me donnait rendez-vous, il arrivait 4h après. Il était déboussolé. Au tout début, il m'a d'abord parlé de Ceylan, une nuit entière, de son séjour à Ceylan. Et je sentais que ça avait énormément d'importance. Ben, la preuve, c'est que le récit de Ceylan, qui est le poisson-scorpion, a été écrit 20 ans après, parce que c'était le plus profondément enfoui chez lui.
La route m'avait fatiguée et j'ai dormi un instant. Quand je me suis réveillée, la mer avait tourné à l'étain. Les vampires rompaient leur vol circulaire et s'égayaient dans les quatre directions de l'espace. Le crépuscule débordait de beauté sournoise et fastueuse. Les six compères tisonnaient mollement le feu qu'ils venaient d'allumer. La flamme faisait briller le blanc des yeux dans les visages sombres. J'entendais leur voix étouffée, en me disant que j'aurais avantage à ne pas traîner ici. Comme je me relevais, j'ai senti une main de la taille d'un battoir me pousser dans le dos, et fait 2 pas en titubant et me suis étalée sur la grève. Je me suis retournée, les dents crissantes de sable. Bien sûr, je n'ai vu personne. Rien qu'une grande raie tachetée de bleu sombre, encore prise au filet, qui achevait d'étouffer dans une puanteur abominable.
Il est tombé dans le précipice et puis... C'est pas d'un bout à l'autre, mais il y a beaucoup du passage de son énorme dépression. Et puis il se sentit très seul, très loin, et abandonné, mais sans envie de rentrer, surtout pas. Il voulait faire le tour de la question et repartir. Mais ça a été très dur.
Dans le Poisson-Scorpion, alors là, on touche le fond d'une ruelle au sud de Ceylan.
France Culture.
Où il se passe des choses 1990. Incroyables.
Nicolas Bouvier, interviewé par Jacques Meunier.
Jeteur de sorts. Et puis il y a toujours ce grain de neurasthénie court entre les lignes.
Vous savez, tout ne se passe pas toujours bien en voyage. Et ça, il y a beaucoup de récits de voyage m'agacent par une sorte d'optimisme à la Pangloss. Ça n'est pas du tout une activité innocente. Moi, j'ai laissé une partie de ma carcasse, toutes les dents, la moitié de mes jambes. J'ai eu une vie très intéressante, mais je n'en suis pas du tout sorti indemne. Donc ça, ce ne sont pas des choses qu'il faille gommer. On peut avoir des coups de malchance, et si on n'a pas gardé un atout dans sa manche, eh bien, on meurt, on ne revient pas. Et moi, j'ai vu des types mourir comme ça.
Et il a aussi fait une dépression quand nous étions ensemble. Et j'arrivais à faire bouillir la marmite, et lui pouvait sans scrupule se mettre à écrire le Poisson-Scorpion. Je crois que c'était le début d'une libération. Il fallait, une fois qu'il l'écrive. Et il passait ses journées avec Debussy et son écriture.
Vous n'imaginez pas comme ma vie ici peut être fatigante. Cette observation, toujours à cheval entre le réel et l'occulte, me tue. Ma tête se rébiffe à s'ouvrir et me fait mal. Souvent, je pleure sans savoir pourquoi. Les postiers me perdent crânement ces lettres d'Europe dont j'ai autant besoin que de sang. J'en reste donc à la dernière, où vous me dites que ce séjour ne me vaut rien, que l'île est en train de me brûler les nerfs et qu'on ne peut faire façon de ce que je vous adresse, que le lecteur occidental n'est pas préparé. Je veux bien. Mais je voyage pour apprendre, et personne ne m'avait appris ce que je découvre ici. Le Poisson-Scorpion.
Bon, c'est un livre dur, mais il fallait qu'il l'écrive. Et moi, j'aime beaucoup ce livre. Des gens le détestent, ce que je peux comprendre, Mais bien, c'est pas fait pour tout le monde. Il s'en est guéri, pas jusqu'au fond de lui-même, mais... Ben oui, c'est un exorcisme, le poisson scorpion.
J'ai vu des paysages.
France Culture.
Croquer des oignons de toute taille.
Nicolas Bouvier, 1992.
Essuyer sous diverses latitudes les mouches à merde qui voulaient m'éponger les yeux. Ça, c'était vraiment ce que les Allemands appellent Bildungsjahr, des années formatrices. Et lorsque je suis arrivé au Japon, au bout de 3 ans de route, eh bien, je crois que j'étais parti tout à fait adolescent, et je crois que je suis arrivé jeune homme.
C'est pour ça qu'il a tellement aimé le Japon. Je crois que c'était vraiment c'était un petit peu la guérison, enfin, l'éloignement de ce mauvais souvenir.
Ben, le Japon, très concrètement, d'abord, c'est échapper à Galles, échapper au Sri Lanka, se refaire une santé, changer d'univers géographique, culturel, intellectuel. Donc c'est déjà une autre manière de respirer le voyage. Donc il va arriver au Japon en 55, il va faire en fait 2 séjours, un premier en solitaire d'une année, dans un Japon qui se situe historiquement à une période où les États-Unis sont très présents. 10 ans après les avoir écrasés, les Américains relèvent le pays. Donc c'est un pays qui est déjà en pleine reconstruction économique, où les grands magasins vendent de tout, du tracteur au dé à coudre. Et en même temps, c'est un pays encore assez pauvre, où le coût de la vie est très faible. Donc un étranger qui arrive, il n'y en a pas beaucoup, à part les Américains, dit « je suis le seul barbu à Tokyo occidental qui ne soit pas américain ». Donc ils ne sont pas très nombreux. Donc il peut y faire sa place. Il est bien reçu, il va y placer des articles, il va photographier. Donc il sent que c'est un pays où il peut vivre.
Pour moi, il y a 2 pôles d'existence pour Nicolas. Il y a la Suisse, Genève, et il y a le Japon. Les 2 endroits où il a le plus vécu. Qu'est-ce qui l'a tiré au Japon? Alors on pourrait dire d'abord le fait d'être loin, très loin, loin de ses références, loin de son milieu. Tout est à découvrir, tout est à comprendre.
Il retrouve la marche comme il l'avait pratiquée avec Vernet dans le sud de la France, dans la campagne japonaise, dans les montagnes japonaises, donc il écrit peu en fait, il fait des descriptions dans des carnets de paysages qui sont très belles. Des rencontres, des moments d'illumination, toujours où le paysage le pétrifie de bonheur.
Et puis, je pense qu'en chemin, il avait commencé à façonner son regard, et son regard de photographe. Et finalement, c'est le Japon où il a vraiment commencé à faire des images. Les premières images dont il parle avec délectation, ce sont celles du mur. Ce mur qu'il considère comme un décor de théâtre, une estrade comme ça, sur un quai. Et puis il s'installe là pendant des heures, pendant des jours. Et puis il attend que la vie passe.
Dans le livre qui s'intitule « Chronique japonaise », Nicolas
1992.
Se cache derrière des...
Nicolas Bouvier, interviewé par Jacques Meunier.
Des poubelles. Avec des clochards, et avec son appareil photo, il guette. Il y a devant lui une sorte de trottoir surélevé. Il y a un mur avec des champignons, des taches d'humidité, et qui forment un petit peu un décor naturel.
Ah, ça formait une scène de théâtre extraordinaire, voilà. D'autant plus que, pour une raison que je n'ai jamais comprise, le trottoir était surélevé de 50 cm. Ça faisait comme une scène avec 2 rampes. Ce mur foisonnait de salpêtre qui en faisait comme vraiment les festons d'un rideau de théâtre, et les gens qui passaient là-devant avaient l'air de jouer à une sorte de petit théâtre du monde. Alors moi, je me suis caché dans cet tas d'ordures, pas par misérabilisme ou goût des tomates gâtées, mais parce que je voulais ne pas être vu, c'est-à-dire je ne voulais rien enlever à la candeur de ce spectacle. Et d'ailleurs, cette ordure m'a conduit à une sorte de fortune, parce que J'ai vendu les derniers livres que j'avais pour acheter de la pellicule. Ces photos ont un grain énorme parce qu'on m'avait vendu des films Ilford qui étaient tombés dans la mer lors d'un déchargement, donc à très bas prix. L'émulsion avait un peu souffert. Ça faisait des photos très bizarres, comme un trucage artistique. Et je suis allé les montrer au plus grand journal culturel, le plus grand magazine culturel qui prenait de la photo de Tokyo, qui s'appelle le Bungei Shunchu. Et les gens n'ont simplement pas voulu croire que ce mur existait. Ils ont pensé que c'était de ma part une mise en scène et que j'avais fait ça dans un théâtre. Alors je leur ai dit, mais non, pas du tout, c'est Takazu Micho. Alors on s'est embarqué avec la rédaction dans 3 taxis, parce qu'ils continuent à ne pas me croire, pour juger sur pièce, et ils m'ont acheté ces photos $1000 de l'époque. C'était encore le dollar à 4 francs 30 suisses. Si bien que j'ai pu revenir, j'en avais un peu marre après 4 ans de soupe aux cailloux, j'ai pu revenir vers l'Europe en bourgeois, sur un paquebot français sur lequel j'avais fait les travaux les plus ignobles.
Et puis, il y a ce second Japon entre 64 et 66, qui lui est beaucoup plus structuré, puisqu'il part avec la commande d'un livre, Japon, dans une collection de voyages, une collection de guides intellectuels, où il va combiner l'histoire du Japon, des pages documentaires sur l'économie, des photographies qui seront de lui. Donc il part avec ça, et puis il y va en famille. Il est marié avec Eliane depuis 1958. Thomas, leur premier enfant, est né en 62. Manuel naîtra là-bas en 64. Donc c'est plus tout la même chose.
Le taxi qui devait nous attendre a disparu. En remontant la ruelle, j'ai retrouvé le chauffeur assoupi dans une petite épicerie entre les jarres de choux aigres et de navets au saumur qui fumaient dans la nuit tombante. Retour vers Kyoto par une route que j'avais faite à pied voilà 8 ans. En 6 ou 7 semaines de marche, j'avais descendu de Tokyo jusqu'ici en suivant les étapes de l'ancienne route impériale qui aujourd'hui passe pratiquement par les champs. Nuit passée sous l'auvent de petits temples à la campagne, hameaux et rizières solitaires de la péninsule de Ki. J'arrivais au faubourg de la vieille capitale en cheminot émerveillé. C'est ainsi qu'il convient d'aborder une ville qui compte 600 temples et 13 siècles d'histoire.
On a vécu à Kyoto dans un temple zen désaffecté, mais on était dans le Daitokuji, où il y avait l'école de zen, et donc on a côtoyé tout ça. Mais il n'était pas du tout tenté, lui, je crois qu'il aimait trop la vie telle qu'il la vivait, ça n'était pas du tout... Non, en d'autres mots, il n'était pas moine.
Je m'en souviens comme d'hier. Chaude pluie de juin, de hautes frondaisons vert pâle bougeaient contre un ciel lumineux et gris. Ces mêmes arbres, aujourd'hui dessinés par la neige. Dans l'intervalle qui sépare ces deux trajets, j'ai l'impression d'avoir été, d'une certaine façon, absent de ma vie. Je suis curieux de voir qui du pays ou de moi aura le plus changé. Chronique japonaise.
J'ai fait un livre sur le Japon.
Le vent des mots.
Sur lequel j'ai travaillé 20 ans.
1998.
C'était le fruit de 4 séjours. Eh bien, ça, c'était de l'écriture ethnologique qui m'a passionné et qui m'a permis de comprendre beaucoup mieux ce pays que tout le monde a tort d'ailleurs dit inscrutable, incompréhensible. Foutaise, une culture qui ne pourrait pas être comprise ne serait pas une culture, ce serait une maladie.
Alors, voilà. Donc, le cahier gris, hein, c'est le début. Visiter en fin d'après-midi une ancienne maison seigneuriale, funèbre et belle, perdue dans le sud-est de la ville, au-delà du Gy. Vieux couple de patriciens désargentés qui louent une aile de leur immense demeure. Lui, squelette distingué, un veston de tweed usé et passé sur une camisole de flanelle grise qui ressemble à un bourgeron de forçat. Elle, presque décharnée, les yeux enfoncés et fiévreux, le visage comme un chiffon de papier de soie engoncé dans l'encolure d'un kimono sévère et somptueux. Nous sommes assis en tailleur, au centre d'une pièce glaciale, autour d'un brasero où un peu de thé amer infuse sur trois tisons. Au-delà des portes à glissière, un petit étang et un jardin engourdi où pas une feuille ne traîne. On ne sait s'il pleut ou s'il neige, ce qu'on sait, c'est que le printemps n'est pas pour demain. La pierre, la mousse, le bois, la patine des nattes lustrées par les chaussons qui reflètent le ciel d'hiver. « J'aime entendre le bruit d'un enfant dans la maison, » dit le vieillard, rompant un long silence auquel il retourne aussitôt, tandis que les deux femmes, il y a aussi là une intendante ou une bru fort digne et fort ingrate, s'inclinent lentement. Impression d'être en visite chez des trépassés, chez des noyés remontés tout exprès du fond de la mer. C'est une description, hein. Il n'y a pas beaucoup de verbes d'action et ils sont tous immobiles. Et en même temps, on a l'impression d'un spectacle de marionnettes dans lequel on est entré. Et c'est ce mélange de magie et de tendresse qui m'a touchée. Là, vraiment, dès cette première scène, je la garde vraiment dans ma mémoire, ces deux personnages, ces deux vieux personnages, ce temple, la neige ou la pluie, on ne sait pas trop. Et je trouve ça, voilà, j'ai trouvé ça fabuleux.
Il disait qu'il voulait réconcilier journalisme et poésie. Est-ce que c'est pas un peu ça la démarche de Nicolas Bouvier aussi, Nadine Laporte ?
Alors, dans Chronique japonaise, effectivement, il y a cette pratique à la fois de l'observation presque ethnographique, enfin, parce que, et surtout quand il monte dans le nord du Japon, qui est liée à la photographie, je pense aussi, parce que là, il maîtrise la photographie à ce moment-là. Il y a aussi la poésie japonaise, qui est quand même quelque chose d'extrêmement fascinant, qu'il connaissait bien. Il apprenait le japonais, donc il a pratiqué, enfin, de toute façon, quand on apprend de ces langues extrêmes orientales, on passe forcément à un moment par des poèmes, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Et dans la structure de ces poésies, il y a des structures extrêmes orientales, je trouve, moi. C'est-à-dire ces descriptions-là, ces petites choses qui sont décrites comme dans les haïkai. Enfin bon, c'est vraiment très lié. Son regard sur le monde est à la fois un regard de reportage, plus que de journalistique, c'est-à-dire quelqu'un qui reporte le monde, enfin voilà, qui rend compte du monde, et c'est en même temps un regard poétique.
Nicolas a très souvent parlé du dépouillement, de l'effacement, de la légèreté vers laquelle il tendait. Alors oui, le Japon nous offre peut-être ça avec le zen. Je pense qu'avant de s'alléger, il faut se nourrir. Et pour moi, il s'est surtout nourri. Nourri de rencontres, nourri de voyages, bien sûr, mais nourri de paysages, nourri de littérature, nourri d'images. Ça n'est que une fois qu'il a peut-être digéré finalement toutes ses connaissances, toutes ses rencontres, tous ses regards, qu'il a eu envie de s'alléger, mais parce qu'il était fait de toute cette richesse-là, quoi.
Le dehors et le dedans.
Love Song 3. Quand isonner les mots pour un peu de couleur ne sera plus ton affaire. Quand le rouge du sorbier et la cambrure des filles ne te feront plus regretter ta jeunesse. Quand un nouveau visage tout écorné d'absence ne fera plus trembler ce que tu croyais solide. Quand le froid aura pris congé du froid, et l'oubli dit adieu à l'oubli. Quand tout aura revêtu la silencieuse opacité du « ou ». Ce jour-là, quelqu'un t'attendra au bord du chemin pour te dire que c'était bien ainsi, que tu devais terminer ton voyage, démuni, tout à fait démuni. Alors peut-être. Mais que la neige tombait cette nuit soit aussi comme un doigt sur ta bouche. Genève, décembre 1977.
Son recueil de poésie, Le dehors et le dedans, est peut-être encore plus emblématique de sa littérature, de son œuvre, que tous les autres livres précédents. D'abord parce que Le dehors et le dedans a été façonné pendant 40 ans, et que jusqu'au dernier moment, que ce soit Morte saison, La dernière douane, etc., il a écrit de la poésie. Au départ, je ne suis pas forcément très amateur de poésie, et là encore, ça m'a parlé. Donc c'est tout ça, Nicolas. C'est l'ensemble de, en tout cas au moins, de ces quatre ouvrages, L'usage du monde, Le poisson-scorpion, Chronique japonaise et Le dehors et le dedans.
On dit souvent que l'écriture de L'usage du monde, qu'il a poli les mots pour arriver à une sorte de gemme. Je pense que c'est absolument radical dans les poèmes. C'est-à-dire que toute la graisse qu'on met toujours autour des mots pour essayer de faire beau, tout a été dissous. Et il ne reste plus qu'une vibration centrale. Pour moi, ces poèmes, ils vibrent. Et dans ma photographie, c'est exactement ça que je cherche dans le réel. Tout à coup, il y a quelque chose qui vibre et je reconnais un morceau de mon univers.
Écoutez, je pense... Mais je ne suis pas du tout objectif, parce que ce que je préfère dans son œuvre, c'est évidemment c'est sa poésie. Chez Nicolas, les poèmes venaient tout à coup, le soir, seul. Donc c'est pour ça qu'il ne les raturait pas beaucoup. Il les prenait comme un cadeau. Et je le voyais tout à fait rayonnant le matin quand il me disait « Bon, est-ce que tu veux lire ça ?» Et puis... avec beaucoup de modestie, j'étais toujours la première lectrice, et j'étais sous le charme.
Il y a un mot pour chaque chose, et une chose pour chaque mot. Mais très souvent, ces couples s'ignorent complètement, vivent à des distances stellaires, ou alors, comme des voisins d'un lotissement, qui ne se parlent pas pendant 40 ans. Alors notre travail est un travail de postier. C'est-à-dire que moi je fais la poste entre les mots et les choses, et quand j'ai trouvé le mot pour la chose, j'ai formé un petit couple de jeunes mariés qui ont un avenir très prometteur.
La dernière douane. Depuis que le silence n'est plus le père de la musique, depuis que la parole a fini d'avouer qu'elle ne nous conduit qu'au silence. Les gouttières pleurent, il fait noir et il pleut. Dans l'oubli des noms et des souvenirs, il reste quelque chose à dire, entre cette pluie et celle qu'on attend, entre le sarcasme et le testament, entre les trois coups de l'horloge et les deux battements du sang. Mais par où commencer? Depuis que le midi du pré refuse de dire pourquoi, nous ne comprenons la simplicité que quand le cœur se brise. Genève, avril 1983.
Nicolas Bouvier est d'abord un écrivain. C'est un conteur, parce qu'il racontait les histoires comme il les écrivait, là encore en choisissant chacun des mots de manière très précise, très détaillée. Nicolas Bouvier était aussi généreux, triste, neurasthénique, avec des penchants pour l'alcool, quelqu'un de parfois torturé et pourtant toujours ouvert aux autres. C'est une définition parcellaire.
Oui, il était humble, il n'était pas prétentieux, certainement pas. Mais je pense qu'il avait quand même, au fond de lui-même, une idée de sa qualité d'écriture. Il n'aimait pas les étiquettes, donc écrivain, voyageur, iconographe, au fond, ces termes l'ennuyaient.
Il n'aimait pas se définir.
Non, à vrai dire, non, parce qu'il ne se sentait pas que écrivain, si vous voulez.
Yann Bouvier, qu'est-ce que c'était de vivre avec quelqu'un dont la vie entière est un conte?
On peut considérer que... Enfin, toute vie est un conte, heureux, malheureux, avec toutes les couleurs du monde et toutes les senteurs du monde. Et ce qui était merveilleux, c'est de vivre avec un homme sensible. Sensible à tout, sans préjugés... ouvert au monde, n'ayant peur de rien, ni d'un chien, ni d'une personne. Bon, la mort ne lui faisait absolument pas peur. Donc ça n'a pas été un problème. Mais je ne sais pas pourquoi, ça c'était obsessionnel, c'était l'idée de vieillir. Parce que je crois qu'il a, il a trop aimé la vie pour qu'elle se termine en quenouille. Donc d'une manière ou d'une autre, ben, il a réussi à nous quitter évidemment beaucoup trop tôt. Mais pour lui, ça n'a pas été au contraire. Je pense que ça a été plutôt une délivrance.
Olivier Bauer, Éliane Bouvier parle souvent des enfants de Nicolas. Je crois qu'elle vous inclut dedans. D'après vous, qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qu'il laisse derrière lui qui fait qu'on peut parler des enfants de Nicolas?
Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre tous ceux qui lisent Nicolas Bouvier? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre tous ceux qui ont contacté Nicolas suite à la lecture d'un de ses livres? Est-ce qu'il faut avoir voyagé pour lire Nicolas ou pour avoir envie de le rencontrer? Je pense que chacun a son histoire. Effectivement, on rencontre beaucoup de voyageurs ou beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes garçons qui sont attirés par le grand dehors, comme disait Le Bris, mais pas que. Après, Éliane parle des enfants de Nicolas parce qu'elle a gardé la porte ouverte de leur maison pendant très longtemps, qu'elle a souhaité véhiculer cet héritage-là. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup en profiter parce qu'on a partagé des moments très précieux avec Éliane. 15 ans après la mort de Nicolas, on est même partis tous les deux au Japon avec cette vieille dame indigne, comme elle s'appelait, qui avait 80 ans et on déambulait ensemble dans le Daitokuji, quoi. Voilà, il y a eu là encore cette envie de partage.
Le point de non-retour. C'était hier, plage noire de la Caspienne, sur des racines blanchies rejetées par la mer, sur de menus éclats de bambou. Nous faisions cuire un tout petit poisson. Sa chair rose prenait une couleur de fumée. Douce pluie d'automne, cœur au chaud sous la laine, au nord. Un fabuleux champignon d'orage montait sur la Crimée et s'étendait jusqu'à la Chine. Ce midi-là, la vie était si égarante et bonne que tu lui as dit, ou plutôt murmuré, « Va-t'en me perdre où tu voudras. » Les wagons répondus, « Tu n'en reviendras pas. » Trébizonde, 1953. Roses like a phantom. Touches like breeze. Shines this understanding.
C'était Nicolas Bouvier, des routes, des mots et des poussières. Avec Éliane Bouvier et les enfants de Nicolas, François Lowe, Olivier Bauer, Frédéric Leclou et Nadine Laporte. Archives, INA, Radio-Télévision Suisse et des extraits du film Le Vent des mots de Joël Calmette et Olivier Bauer. Lecture, Camille Jusot. Mixage, Claude Niort. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Brice Andlauer, réalisé par Christine Robert.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre et Quentin Vaganet. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.